Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau qui fait un peu son grand retour. Hein. On vous avait promis quelques épisodes de transfert, mais les ordres de chacun, les calendriers pardon, de chacun ont été un peu surchargés. Bref, par contre, l'ouverture, la saison vient vraiment de commencer, donc évidemment, on est là et on va discuter de ce week-end d'ouverture et puis de ce qui nous attend derrière. Mais on va d'abord donc discuter de ce qu'on a vu ce week-end et pour ça, ben, comme toujours, j'accueille Romain et Alexis. Salut les gars!
Salut.
Salut,
Salut tout
salut.
le monde.
On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous dis, on va parler de ce week-end. Moi, je vais vous demander, généralement, le Newsblatt est un peu plus coté que Kurn. Hein. C'est généralement la course qu'on préfère dans les deux. Mais cette année, c'est peut-être pas le cas. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous avez préféré comme course ce week-end. Entre ces deux-là, pas le numéro de
Ouais.
Texas. Hein. Entre ces deux-là, entre Kurn et le Newsblatt.
Bah, écoute, moi personnellement, j'ai préféré Kurn largement. J'ai plus. Plus, je l'ai plus vu aussi parce que là j'ai vu que la dernière heure. Parce que bon voilà, pourquoi je l'ai préféré. Alors certes, Damien, on en a déjà parlé un petit peu. On savait que ça allait finir au sprint, mais quand même il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de cassures grâce au vent qui était de 3/4 d'eau. Et ce sont des mouvements qui, en soi, même si on sait qu'ils finissent au sprint, ils sont pas du tout inutiles et sont très agréables à regarder. Et pourquoi ils sont pas inutiles? Parce que c'est des efforts qui pèsent énormément avant le sprint final. C'est évidemment pas du tout la même chose de faire un sprint. Après une journée calme, un sprint après une journée pareille. Et puis aussi, c'est des mouvements qui ont permis de mettre des coureurs comme Milan hors course, par exemple. Alors, pas du tout que j'aime bien avoir Milan hors course, loin de là, mais moi, c'est ce genre de course-là que j'aime beaucoup dans les parcours un peu moins compliqués. C'est cette espèce de match dans la course entre ceux qui veulent éliminer les sprinteurs et des sprinteurs qui ne veulent pas être éliminés. Donc voilà, moi, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette course. Après, l'Omloop, je peux comprendre qu'on l'a apprécié et je sais que c'est mon côté un peu fataliste, voire pessimiste, mais à partir du moment où j'ai vu Van der Poel en mouvement, j'ai su que la course était pliée. Enfin, elle aurait pu ne pas l'être, hein, c'est pas... mais dans ma tête, elle était pliée parce que je ne pouvais pas croire un seul instant que Vermeersch ou Van Dijk allaient pouvoir le suivre plus tard. Et là, j'exagère exprès, mais je pouvais pas croire un seul instant non plus que même si le peloton se mettait à 500 derrière lui, ça allait pouvoir revenir sur Van der Poel et sur un UAE qui collabore. Donc voilà, moi, ça a été fini quasiment dès l'instant où j'ai allumé la télé.
Romain.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Alexis. Et Alexis, tu as mis le doigt sur quelque chose de particulier et d'important, c'est les mouvements de course qu'on a vus sur Kurn et qu'on a nettement moins vus sur l'Omloop. Alors, on en a vu un petit peu en début d'Omloop, c'est vrai. Moi, je suis très déçu de cet Omloop. Alors, déçu n'est pas forcément le mot parce que rien qu'à voir la startlist, on pouvait s'attendre en fait à ce schéma de course et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il a fallu une accélération de Florian Vermeersch au pied du Molenberg. Malheureusement, une chute qui fait que, par un numéro d'équilibriste dont il a le secret, Mathieu Van der Poel est nouveau le seul à être passé en ne perdant pratiquement pas son élan. Hein, si on compare avec un Christophe Laporte qui avait l'air très fort samedi, bah, Christophe Laporte est resté de longues secondes pied à terre derrière le pauvre Rick Ploemers. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Mais, tout le monde s'est regardé, c'était une course d'enterrement. Et donc, Mathieu Van der Poel s'est retrouvé un peu par hasard pratiquement devant avec Florian Vermeersch. Il faut noter le sacré numéro de Mick Van Dijk qui est revenu, ce qui montre bien qu'il y avait moyen de revenir. Je dis Mick, c'était Tim Van Dijk, pardon. Mais ce qui montre bien qu'il y avait moyen de revenir si certains avaient voulu collaborer ou faire un effort. Et non, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'à partir du Molenberg, ben, le peloton a commencé à rouler quand il y avait 1 minute de débours. Et puis, je ne suis même pas sûr que Mathieu Van der Poel ait accéléré dans le mur de Grammont pour lâcher ses deux compères. Donc, ça a été une course, je trouve, ennuyante à souhait à partir du moment où ça devait commencer à devenir intéressant. Et donc, pour ces raisons-là, je trouve qu'effectivement, Alexis a bien résumé, Kurn était vraiment la course à voir ce week-end parce que c'était celle qui avait le plus de mouvements de course, qui avait le plus de, finalement, d'indécision dans ce qu'on a pu voir tout au long du week-end.
Ouais, moi, je sors d'un week-end qui a fait un peu pchit, même si je suis d'accord globalement aussi avec ce que vous avez dit sur Kurn. En fait, c'était sympa jusqu'au moment où on s'est rendu compte que, bon, okay, il n'y a plus rien qui allait se passer. Bon, après, c'est un peu le principe de Kurn, mais des fois, on y échappe. Et le Newsblatt, bon, il a quand même valu un tout petit peu d'excitation chez moi, parce que je me suis beaucoup énervé sur Florian Vermeersch. Donc, voilà, je ne suis pas resté non plus totalement neutre. Mais après, avec le recul, à froid. Je lui en veux un peu moins, parce que l'idée c'était de dire, bah, d'abord tu relais jamais Van der Poel, tu sais que tu vas te faire plier, et puis tu joues la supériorité derrière. Sauf que, on parlera peut-être de Wellens plus tard qui a chuté, Wellens il n'avait pas l'air fort en fait samedi. Parce que pour moi, c'est pour ça que tu ne relais pas en disant, bon, j'ai des garçons derrière, dont Wellens, et bah, Van der Poel va s'épuiser ou pas, et le résultat aurait été le même. Hein. Van der Poel aurait gagné, j'en suis sûr, à tous les coups. Mais bon, voilà, essaye quand même quelque chose. Après, je dis, avec un Wellens qui n'avait pas l'air top, ça a peut-être parlé dans les oreillettes, et au final, bon, ils se sont peut-être dit, on ne fera pas mieux que partir avec Van der Poel et aller chercher une place sur le podium. Bref, week-end,
Honnêtement,
ouais.
pour rebondir sur Florian Vermeersch, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que son attitude n'est pas plus préjudiciable finalement à la course que l'attitude du peloton dans son ensemble. Alors, c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il a roulé pour une place de second. Moi, je rappellerai quand même que Florian Vermeersch, alors ça commence à dater, c'est vrai, mais Paris-Roubaix 2023, c'est un grand numéro du bonhomme qui bat Mathieu Van Der Poel au sprint. Alors, il y avait évidemment Colbrelli qui était devant. C'était un sprint à trois. On aurait pu imaginer un sprint à trois avec aussi un Tim Van Dijk ici. Donc moi, je pense que
Avec
voilà, on
il
en
restait quand
veut.
même le mur et le Bosberg.
C'est ça.
Oui, mais on en veut beaucoup aux coureurs qui n'essayent pas. Et là, pour une fois qu'il y en a un qui essaye, on lui
Oui.
en veut, on lui tombe dessus. Et donc moi, c'est ça qui m'a un peu gêné. En tout cas, j'aurais été son directeur sportif. Je n'aurais rien eu à lui reprocher. Il a offert une place de trois, même pas deux. C'est vrai, c'est dommage pour lui. Mais enfin, voilà, je trouve que au moins, il a fait sa course. Et c'est peut-être un des rares coureurs avec Tim Van Dijk qui ont joué le jeu, qui ont fait la course et qui ont gardé un temps soit peu de suspense et encore dans cette course. Donc, j'ai du mal à leur en vouloir à tous les deux et particulièrement à Florian Vermeersch, alors que derrière, tout s'est observé pendant des minutes et minutes. On a attendu, je dis, une minute de débours pour commencer à se relayer et pas de façon ultra franche, quoi.
Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Je voulais avoir merde, mais derrière, en fait, c'est toujours la même chose derrière. Je ne sais pas quand ça changera. Je m'énerve toujours, mais en fait, c'est attendu. Chaque fois, c'est la même chose, que ce soit Pogacar, soit Van der Poel, soit n'importe qui. Ça met toujours une plombe à s'organiser. Je sais pas, est-ce qu'ils sont résignés? Est-ce qu'ils ont peur de faire l'effort de trop? Ça devient un peu répétitif, en fait, comme scénario. Justement, en parlant d'extraterrestres, en parlant de Pogacar et de Van der Poel, avant de parler un peu des autres. Avec le numéro que Van der Poel a fait ici sur Newsblatt, et un numéro, je crois que c'est toi, Romain, qui l'a dit, on n'a même pas l'impression qu'il a accéléré pour lâcher les deux autres. C'est un numéro en sortie d'entraînement, en fait. C'est même pas qu'il a impressionné. Est-ce que il n'a déjà que Pogacar à craindre pour ce printemps flandrien?
Ça va être compliqué hein, quand on voit le nombre de forfaits, de malades. Enfin, c'est une hécatombe cette année-ci. Je n'ai pas souvenir d'un printemps. On a vu autant de gros coureurs être sur le flanc pour le week-end d'ouverture. On rappellera quand même que le troisième homme, c'est quand même Mats Pedersen aujourd'hui, bah, qui ne reviendra pas probablement, en tout cas pour jouer la gagne sur ce printemps. Wout Van Aert, il y a toujours cette espérance de voir le Belge enfin accrocher un monument pavé, mais on constate, on l'a encore vu avec le Samin, qu'il a une poisse gigantesque monumentale. Alors oui, peut-être que quelqu'un a mis du verre, mais il est le seul à crever sur ce verre, donc c'est quand même encore une question de poisse. Et donc, qu'est-ce qui reste derrière? Je ne vois pas une équipe avec un collectif, y compris la Soudal, qui pourrait rivaliser avec Pogacar et Van der Poel. Avoir une équipe qui vient se greffer dans la course et qui peut effectivement venir un petit peu bousculer tout ça. Oui, bien sûr, la Visma a montré de belles choses ce week-end malgré tout. Soudal, alors on a fait des plombes avec Paul Magnier. Bah, je suis désolé, mais Paul Magnier, alors oui, il y a évidemment la malchance aussi. Mais Paul Magnier passe deux fois à côté, où il termine loin. Arnaud Delis, on ne l'a pas vu non plus. Donc, quels sont les coureurs, finalement, qui ne sont pas forfaits, qui n'ont pas été embêtés par une blessure ou une maladie durant ce début de printemps, et qui sont parmi les outsiders qui pourraient, dans un jour de grâce, venir rivaliser? Il n'y en a pas un seul. Donc, pour moi, on va droit vers un mano à mano, et ça va être effectivement peut-être le printemps le plus emmerdant. Après, on ne sait jamais, c'est la glorieuse incertitude du sport. Espérons que des Magnier, que des Laporte, que des Van Aert, finalement, essayent quelque chose de différent. Un Van Baarle a montré de belles choses. Un Vermeersch, Gianni Vermeersch, a montré qu'il pouvait être utile aussi chez Bora. Mais pour qui? Un Meus ne va pas jouer le Tour de Flandre. Donc, voilà, je suis très dubitatif sur ce qu'on va avoir d'autre que Pogacar et Van der Poel sur ce printemps pavé.
Ouais.
Ouais,
Bah, alors, vas-y, Alexis,
vas-y.
vas-y.
Non, moi, sur le round, vraiment, c'est clair et net, c'est un mano à mano, sauf vraiment miracle. Maintenant, il y a d'autres courses hein, sur le 3 et encore plus sur le Grand Wevelgem. On peut quand même espérer que des coureurs comme Van Aert, Magnier, Pedersen, moi j'y crois encore, puissent venir concurrencer Vanderpool parce que c'est des courses un peu moins dures. Et sur Roubaix, bon, a priori, Pogacar, Vanderpool seront les deux plus forts aussi, mais il n'y a pas de dénivelé. Donc d'autres coureurs comme justement Van Aert, Pedersen peuvent venir encore concurrencer. Maintenant, c'est clair que Vanderpool sera le plus fort, à part Pogacar. Ce printemps-ci, mais c'était déjà le cas l'année passée, et on a eu des belles courses quand même. Hein. Donc je ne perds pas espoir, même si ça me paraît assez évident qu'on va revivre exactement la même chose que le run l'année dernière, par exemple.
Ouais, c'est ça. En fait, l'écart était déjà là, mais il semble encore plus flagrant, effectivement, avec tout ce que ben, Romain t'a cité. Moi aussi, j'espère toujours Pedersen et Van Aert. Maintenant, Pedersen, ça va être compliqué avec ce qu'il a vécu. On n'oublie pas non plus, en dehors de la poisse, que Van Aert, je ne sais pas moi, bon, il peut peut-être être à 100%, mais il a quand même aussi un problème
Ouais,
l'hiver. Donc, on verra aussi
totalement.
le. On n'a pas encore pu juger vraiment le niveau de Van Aert. C'est pas sur Assamet qu'on va pouvoir juger le niveau de Van Aert. Donc, bon, espérons qu'il y aura quelques hommes pour les embêter. Après, je suis d'accord sur Paris-Roubaix. C'est là que je pourrais imaginer, dans les plus grandes courses, ou peut-être un Grand Wevelgem, oui, des outsiders. Voilà. De toute façon, ma question suivante, c'était qui a marqué des points. Ben, je vais vous donner un outsider qui, pour moi, a marqué des points, même si on est encore loin de Roubaix. C'est Christophe Laporte. Moi, sur
Ouais.
le week-end, je l'ai trouvé très bon. Et c'est vrai qu'à Paris-Roubaix, ça lui convient bien. On sait qu'il sait y faire des belles choses. Donc, je ne sais pas s'il peut, parce que là, on parle quand même d'accrocher les extraterrestres. Mais voilà, autant je suis résigné, parce que Alexis, tu parlais d'un E3, même l'E3, moi, j'y crois pas une seconde. Autant quand il n'y a pas le dénivelé, je me dis, ah ben, il y a peut-être des garçons quand même. Sait-on jamais? Bon, Brennan, c'est un peu tôt, même s'il a déjà montré des belles choses l'année passée sur ce parcours. Voilà, j'espère qu'il y aura des garçons. Et dans ces garçons, j'allais vous demander qui a marqué des points, des bons points, et qui vous a un peu déçu ce week-end. Je vais juste, avant de vous donner la parole, réagir parce que dans les déceptions, un peu, j'entends déjà Romain qui a parlé de Magnier. Moi, je trouve qu'il fait un très gros newsblatt, hein. Franchement, et il faut voir combien de temps il reste sur le bas-côté avant qu'on vienne le dépanner. Ça roule dans un petit groupe très longtemps, et au final, il vient sprinter. Pourquoi? Pour un top 10, enfin il n'est pas dans le top 10, mais il vient se battre pour une place. Moi, enfin, je vous dis peut-être une connerie, j'en sais rien. En tout cas, je trouve qu'il fait un bel effort sur le newsblatt. Le lendemain, un peu plus décevant. Apparemment, il y a quand même un problème mécanique, mais j'écarterai pas Magnier sur ce que j'ai vu là. Par rapport à d'autres qui sont passés à côté, bon, de toute façon, j'attends pas Pidcock sur un Roubaix, mais par exemple, Pidcock, incompréhensible pour moi, sa course. Magnier, ok, il y a des explications, quoi. Bref, donc. Je vous redonne la parole. Quels sont pour vous les hommes qui vous ont tapé dans l'œil dans le bon sens ou dans le mauvais sens?
Ben, écoute, je vais un peu faire le lien avec la question précédente. Tu as parlé de Van Baarle. Moi, il m'a impressionné énormément. C'est pas le seul, mais il m'a impressionné. Et je reviens juste, je réponds aux deux questions en même temps. Pour le 3, on voit que Soudal a quand même l'air d'avoir une équipe assez performante cette année. Ils ont l'air en forme et ils vont devoir utiliser leur supériorité pour faire une course différente. C'est clair que si on envoie au corps à corps avec Pogacar, enfin qui sera peut-être pas là, mais face à Van der Poel sur le 3, ils vont se faire massacrer. Mais ils ont Stuyven, Van Baarle, Magnier, Rex. C'est un pôle assez solide et donc il faudra courir différemment pour venir les embêter. Et là, ça peut devenir une course très très intéressante. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans la saison. Mais voilà, moi, Van Baarle, après 2 années complètement, ou allez, surtout une année complètement fantomatique, là, il m'a super fort impressionné. Je vais vous laisser parler des autres noms, mais voilà, moi, c'est vraiment lui que je vais retenir en premier.
Romain.
Oui, bah, Van Baarle et Laporte, c'est les deux profils de Flandriens qui, sur l'Omloop, ont montré que si deux mecs avaient peut-être pu suivre Van der Poel dans le Molenberg et Vermeersch, hein, c'était peut-être eux. Après, il y a d'autres gars qui ont montré un peu le nez à la fenêtre, comme un Abrahamsen. On ne sait jamais ce qu'il faut attendre d'un guerrier viking comme lui. Moi, j'ai trouvé, parce que de plus en plus, on a tendance maintenant à élargir le week-end d'ouverture avec le Samin. Un Lorenz Rex m'a quand même relativement impressionné parce que, alors c'est clair que sur du dénivelé, ce n'est pas forcément le coureur qu'on va attendre. Mais enfin, le mec avait quand même deux fractures de vertèbre il y a un mois. Il vient faire sixième de Kürn, il vient faire deuxième du Samin derrière un intouchable Jordi Meus. Et c'est vrai que dans un collectif Soudal avec un Van Baarle, avec peut-être un Stuyven, mais qu'on annonce pas encore vraiment rétabli pour Paris-Nice, avec un Magnier qui. Moi, je reste très dubitatif sur Magnier sur le Tour des Flandres, sur une course comme l'Omloop ou Kuurne, oui, mais sur le Tour des Flandres, ça me paraît vraiment compliqué. Donc voilà, ce sera le collectif, ce sera les deux collectifs à suivre, ce sera Soudal et ce sera Visma en fait. Hein. C'est ces deux collectifs. En dehors de ça, j'étais très déçu, puisqu'on en parle, on parle aussi des déceptions, j'étais très déçu par le collectif Lidl. Alors bien sûr, Pedersen n'était pas là. Moi, j'entendais beaucoup de Mathias Vaček, qui s'était autoproclamé comme leader de remplacement. Il termine, je pense, à 10 minutes. Enfin voilà, on ne l'a pas vu. Et on n'a pas vu même un Tom Skuins. On sait que c'est un gars qui est toujours présent quand la course est difficile. On l'a entreaperçu un moment, on a cité son nom, je pense, à un moment, et puis c'est tout. Donc voilà, en fait, c'est ce que je voulais dire au début, c'est que malheureusement, toutes les forces qui pourraient venir contrecarrer les plans de Pogacar, j'arriverai de Van der Poel, ont tous eu des pépins. Et comme d'habitude, Pogacar, Van der Poel, alors Pogacar, on ne le sait pas parce qu'il n'est jamais qu'à l'entraînement, mais non, absolument rien n'est comme pépin. Ça devient une marotte, quoi. Et donc, partant de ça, alors je ne veux pas être défaitiste, mais il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que des mecs comme des Laporte ou des Van Baarle puissent venir, c'est même pas rivaliser, mais c'est venir bousculer un petit peu la hiérarchie.
J'aime bien l'idée que tu parles de bloc. Alors, sur le pépin, je sais que tu l'as déjà dit, évidemment, il y a d'autres de pépins, mais quand tu vois le numéro d'équilibriste, c'est pas non plus que de la chance avec ces mecs-là, ils
Bien
arrivent
sûr.
à échapper tout ça, parce que c'est phénoménal la manière dont ils arrivent à passer là. Enfin bref, j'aime bien que tu parles de bloc, parce que moi, ce qui m'a marqué, quand je lui ai posé la question, je me suis dit, mais tiens, en fait, c'est des blocs plus que des noms. Alors bien sûr, oui, Van Baarle, après les 2 heures, ça me marque, mais en fait, c'est tout Soudal qui m'a marqué dans le bon sens. C'est tout Visma qui m'a impressionné, parce que on parle de Laporte, Brennan, quand même, son sprint, là, il le gagne haut la main, il a fait une belle course. Et Timo Kilic, mais
Bah,
quel
Kilic,
transfert! Bon,
je
c'est
l'ai jamais vu comme ça.
incroyable!
Je l'ai jamais vu comme ça.
Je l'ai vu de bon chez Alpecin, mais peut-être pas à ce point-là, ouais, c'est
Bah là,
vrai.
c'était incroyable.
Donc, très gros bloc. Et effectivement, la déception, on peut parler du bloc Lidl, parce que tu parles de Vacek tu parles de Skuins. On peut rajouter. Alors après, ça a été un jeu de qui, donc je ne sais pas qui a eu quoi non plus sur le newsblatt, mais on peut rajouter Philipsen. Ok, il est très jeune, mais on pouvait en attendre peut-être quelque chose. Et on peut rajouter Milan, qui sur Kuurne craque quand même assez rapidement. Donc c'est vrai que le bloc Lidl, et sans qu'il m'ait totalement tapé dans l'œil, j'ai quand même eu une petite pensée pour le bloc Red Bull, qui est passé totalement à côté l'année passée et qu'on a vu quand même assez intéressant avec Van
Franchement, ouais,
Dijk.
c'est
On a vu
sûr.
Dupitty, on a vu. Voilà, on les a vus quand même assez présents. Donc voilà, et je pense qu'ils ont déjà fait mieux là en deux courses que sur toute leur campagne flandrienne de 2025 en fait.
Je trouve ça assez intéressant de voir plusieurs blocs plutôt forts, Visma, Red Bull, Soudal, justement, voilà, pour pouvoir venir jouer le jeu des équipes face aux extraterrestres plus tard. Même si, voilà, si, enfin, on peut aussi s'attendre à ce que Pogacar et Van der Poel soient super forts, parce qu'en 2026, les performances ont l'air très, très, très solides. Donc, si les coureurs qu'on vient de citer sont forts, a priori, il y a des chances pour que Van der Poel et Pogacar le soient aussi.
Ouais, bien sûr. Je viens de vous parler de Milan qui a craqué assez vite. Il y en a un autre qui a craqué ce week-end et qui a un peu déçu, c'est Arnaud Delis. Alors, ben, vous savez, hein, tous ceux qui nous écoutent, c'est moi qui ai préparé l'ordre du jour, j'étais obligé de parler d'Arnaud Delis. Je le disais en boutade à Alexis hier, si vous vouliez entendre parler de Van Aert, il fallait donner l'ordre du jour à Alexis, hein, et vous aurez parlé de Van Aert.
Le podcast n'est pas fini, hein, c'est pas
Le
fini.
podcast n'est pas fini. Non, blague à part, Arnaud Delis, ben, je ne sais pas quoi en penser. Après, il a eu des soucis divers, donc j'imagine que c'est une partie du problème, mais j'ai un peu du mal, même s'il y a encore un peu de temps, j'ai un peu du mal à imaginer un Arnaud à 100% qui, du coup, pourrait jouer les tout premiers rôles sur la suite de la campagne. J'aimerais bien votre avis là-dessus.
Il va être temps qu'il nous fasse un vrai printemps.
Ah ouais, ouais.
Parce que on l'aime beaucoup hein, et on est les premiers à le défendre. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Il y a systématiquement quelque chose qui vient contrarier sa préparation. Donc, il faut prendre ça évidemment en compte aussi. Mais le Arnaud Delis qu'on voit en seconde partie de saison est toujours au top. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas quand c'est la première partie de la saison? Ils sont finalement les courses où on l'attend le plus. On s'était, je ne sais plus si c'était la première année qu'on a fait ce podcast, le petit plateau, mais rappelez-vous ce grand plateau d'Arnaud Delis dans le mur de Grammont, c'était extraordinaire. L'image en elle-même avait été génialissime. Et on s'était dit, waouh, on s'était enflammé. Alors peut-être sur cette bête image, c'est vrai, mais c'est un coureur qui a des qualités et qui effectivement continue à être souvent mal placé. De plus en plus, je pense qu'il n'a pas l'équipe pour l'accompagner. Ils ont beau avoir fusionné ici Lotto Intermarché, ben, je ne vois pas sincèrement les renforts pour Arnaud Delis sur la campagne des Flandriennes et la campagne des classiques. Donc, qu'est-ce que Arnaud Delis va pouvoir faire de mieux que l'année passée, puisqu'il y a de nouveau ce petit contretemps, si ce n'est aller chercher en lui-même les ressources nécessaires pour pouvoir aller chercher de meilleurs résultats. Et ça, on a vu que pour l'instant, il n'est pas prêt. Son équipe estime que Tirreno va lui faire du bien, qu'il sera en meilleure forme. Mais il va être temps, parce qu'après Tirreno, on va vite être déjà mi-mars. Et il restera 3 semaines de printanière sur lesquelles lui peut vraiment aller chercher une belle victoire. Et c'est ça qu'on attend d'Arnaud Delis désormais. C'est pas d'aller regagner un Trobroléon, c'est pas d'aller regagner la classique de Bretagne, c'est de gagner une fois une classique pavée. Et ça, pour l'instant, je pense qu'il en est, en tout cas à ce stade-ci de la saison, qu'il en est très loin.
Alexis, en dehors, enfin, tu vas donner aussi ton avis sur les plus grandes courses, mais en dehors peut-être de l'imaginer sur un run où de toute façon, même à 100%, ça semble totalement utopique. Ou même d'un Paris-Roubaix qui a fini d'être mon pari fou année après année. Par exemple, avec ce que tu as vu de ce week-end, Arnaud Delis sur un Gore-Wevel Game qui va venir. Est-ce que tu peux croire qu'il sera prêt à aller remporter un Gore-Wevel Game, qui est une belle course qui lui va assez bien?
Ça lui va, elle lui va à merveille. Il lui reste un mois. Alors, on a déjà vu des coureurs être totalement métamorphosés le temps d'un mois, surtout qu'il a eu un petit pépin. Donc, peut-être que sa forme est un petit peu reportée. Maintenant, le temps presse. C'est pas le seul à avoir eu des pépins. Il y a des coureurs qui ont des pépins et qui sont présents sur les courses, ne sont pas tous aussi largués que lui. Moi je commence quand même à m'inquiéter un petit peu, même si, comme je dis, des miracles ça peut arriver. Donc j'y crois à moitié. Maintenant, moi ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que bon, il a toujours des soucis. Quasi toutes les années, il a eu des soucis en hiver, donc je ne vais pas l'affirmer, mais je commence vraiment à me demander si ce qu'on avait avancé l'année passée n'est pas en train de se confirmer, à savoir le fait que Delis ne fait pas de stage en hiver, contrairement aux autres coureurs, et a besoin du coup de l'entièreté du printemps pour rattraper son retard par rapport à ceux qui en font, ce qui ferait qu'il est plus performant plus tard sur l'année. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est une théorie qui, année après année, semble quand même avoir le mérite d'être étudiée, on va dire. Donc ça, voilà. Moi, je me pose quand même cette question, et si cette théorie est vraie, bah, alors non, sur Grand Game, je n'y croirais pas du tout.
Ben oui, en fait, ce qui est aussi un petit peu étonnant, moi, ce qui m'étonne, c'est on est dans le cyclisme en plus avec tous les data et tout ça, où normalement ils savent plus ou moins ce qu'ils peuvent faire, et là, il a mis son équipe à la planche pour se faire craquer lui-même, quoi.
C'est très bizarre. C'est
Ouais.
vraiment surprenant.
Ok.
Ou alors c'est la question d'un jour, hein. Je veux dire, il se sentait peut-être très bien, et puis voilà, mal digéré, mal dormi, voilà, on ne sait pas. On ne peut pas prendre de conclusion sur un jour. Peut-être qu'à l'entraînement, il avait les watts, mais que ce jour-là, il n'était pas. Voilà, il n'a pas su les produire. On ne sait pas. Mais ce qu'on a vu n'est pas réjouissant, en tout cas.
Bon, espérons que ce soit un problème d'un jour. On verra
Ouais.
ça, hein? On verra ça assez rapidement finalement. On a déjà un peu parlé tout à l'heure d'un printemps décimé, remettre à citer des noms. Je peux rajouter, alors c'est pas lui, c'est pas décimé, mais Jorgensen qui a changé de programme, donc ne sera pas là. Stéphane Kung aussi sera absent suite à sa chute. On ne sait pas donc pour l'état de forme de Delis, on ne sait pas pour Pedersen. Il y a Wellens qui s'est rajouté au lot. Il y a Benoît aussi qu'on n'a pas encore évoqué qui est absent. Bon, Coy, pas pour les plus grandes courses, mais sait-on jamais dans une moindre mesure pour un Gore-Wevel Game ou quoi. Bref, en tout cas, ça fait beaucoup d'absents. En dehors même de la lutte pour la victoire, est-ce que vous, ça vous fait baisser un petit peu la hype, l'envie d'être dans ces courses ou... Moi, je suis quelqu'un qui arrive à faire assez facilement par rapport à beaucoup de suiveurs avec la domination des fantastiques parce que j'ai réussi à un moment donné à me dire, bon, regarde la course derrière, quoi, entre les autres. J'admire l'exploit des Pogacar et Van Der Poel, mais je suis content de voir derrière la bagarre entre les autres. Mais là, du coup, bon, après, si ces grands noms-là sont pas là, il y en aura d'autres. Hein, la bagarre, elle risque d'être là, mais ça me manque un peu. J'ai l'impression d'arriver sur une course où il n'y a pas les mecs que je veux voir, quoi. Bon, après, ça restera les Flandriennes, hein, on aimera, mais...
Ouais,
Sur
je le sens pas
l'omelope.
encore. Je me dis qu'il y a encore un peu de temps. Pedersen, je sais que après sa chute, 2 jours après, il était en train de s'entraîner à fond. Il le dit lui-même qu'il y croit. Küng, j'ai beaucoup apprécié le voir sur ces courses-là, mais je comptais pas sur lui en 2026 pour venir nous offrir du spectacle. Donc voilà, j'y crois encore et je me dis que la présence ou non de certains coureurs ne changera rien quant à la domination de Pogacar et Van der Poel. Donc pour l'instant, ça ne me pèse pas trop. Maintenant, c'est clair que si on arrive le jour J et qu'il n'y a personne, voilà, je serai sans doute un peu moins hypé que les années précédentes.
Oui, j'allais dire sur l'omloop, ça m'a foutu un peu en l'air, on dirait à moitié, dans la mesure où il y avait effectivement autant de forfaits. Tu as cité beaucoup de noms, j'en rajouterai un aussi parce qu'il visait une classique pavée cette année-ci. C'était Nelson Paoles qui avait fait un grand numéro à travers la Flandre l'année passée, qui aussi forfait tout le printemps. Donc oui, c'est clair que c'est moins réjouissant. Après, c'est effectivement l'occasion de découvrir d'autres coureurs, de voir d'autres coureurs, d'avoir des mecs comme des Laporte ou autres qui, bah, eux justement, viennent de passer 2 printemps de galère, donc ont la possibilité de se remettre en évidence. On parlait d'un Van Baarle tantôt. Donc il y a quand même des gens derrière pour faire la course et pour nous offrir du mouvement. C'est ça qu'on veut surtout, c'est du mouvement. Ce n'est pas des gens qui vont battre Pogacar et Van der Poel, si on est conscient que c'est compliqué. Mais par contre, des gens qui font la course, qui essaient des choses. Et il y en a dans le peloton. Et peut-être que justement, plus on va aller vers des, entre guillemets, petits coureurs, plus les mecs vont se dire, j'ai quand même rien à perdre, je vais essayer. Donc ça peut être justement l'effet inverse. En tous les cas, c'est clair que la hype sur les Flandriennes, elle est toujours là. C'est dommage qu'il y ait tous ces forfaits, tous ces absents. Mais je dis, c'est l'occasion de découvrir d'autres mecs, ou en tous les cas, l'occasion pour d'autres mecs de se révéler comme étant effectivement ces nouveaux outsiders, voire peut-être, pourquoi pas, ces nouveaux vainqueurs.
C'est vrai qu'après, on va peut-être tomber amoureux de certains coureurs qu'on n'aurait pas
Bah oui.
imaginé. Après tout, c'est peut-être un mal pour un bien, on verra effectivement. Hein. Avant les Flandriennes, on va pouvoir se hyper ou non par les courses en Italie. Et on va commencer, bah, d'ailleurs, on va parler que d'Estrade parce que je pense qu'on fera un épisode de Milan-San Remo en temps et heure. Mais ici, il y a l'Estrade qui arrive. Ça va être quoi l'Estrade? Une petite promenade de santé de Pogacar, une course hyper passionnante ou je sais pas, il y a un autre espoir que ça? Dites-moi.
Il y a un facteur X, c'est Del Toro. C'est-à-dire, est-ce que Del Toro
Intéressant.
va jouer le jeu du coéquipier modèle de Pogacar, ou est-ce qu'en fonction des stratégies de course, on ne va pas demander à Del Toro d'attaquer pour voir comment réagissent les autres? C'est pour moi, c'est le principal opposant à Pogacar, c'est son propre coéquipier, c'est Del Toro. Si UAE ne remporte pas cette course, ce serait un échec total. Mais effectivement, je vois bien Pogacar et Del Toro faire un et deux. Honnêtement, j'ai pas regardé la startlist avant l'émission ici. Je me dis qu'un Pidcock est toujours un gars qui peut solidement venir faire un podium. Pour le reste, quand on voit que même Mathieu Van der Poel dit non, je ne viens pas, c'est trop difficile comme course. Ben voilà, ça veut tout dire. On corse davantage encore les courses. Donc on offre finalement un boulevard pour les monstres que sont Pogacar et Del Toro désormais. Faudra voir quelle sera la concurrence, mais voilà, ça va être une belle course parce que les paysages sont magnifiques, que les courses dans les chemins blancs sont toujours superbes au niveau de l'image. D'un point de vue sportif, je ne m'attends pas à grand-chose d'autre, si ce n'est la victoire de Pogacar, voire celle de Del Toro.
Ouais, je vais poser une question, Alexis, je vais te donner la parole, mais tu vas avoir 2 questions en une, du coup. Tu vas pouvoir réagir à ce que
Ça
Romain a
marche.
dit. Mais il m'a un peu spoilé une de mes questions, parce qu'il a parlé de Van der Poel. J'allais aussi vous demander si Van der Poel, il reste pas un peu trop dans sa zone de confort. Alors, c'est vrai, on a durci, etc., mais est-ce que Van der Poel, il devrait quand même pas être sur l'estradé, quoi, pour venir taquiner un peu Pogacar? Et puis après, tu peux répondre évidemment sur tout le reste. Je vais juste m'en donner mon avis sur Del Toro. Bon, après, ça dépend de si Pogacar veut gagner ou pas. Et je pense que Pogacar veut gagner. Et donc, je pense que Pogacar gagnera et que Del Toro va juste faire le travail. Il faut aussi, à un moment donné, on lui donne beaucoup au gamin. Bon, je crois qu'il doit aussi se dire, bon, Pogacar est là, voilà, c'est le boss, quoi.
Et il y a d'autres mecs derrière, hein. Quand on voit les Arrieta et compagnie sur la Classica Jaén, bon, évidemment, Wellens ne sera plus là, mais non, non, c'est très, 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 très costaud chez UAE. Pardon.
Ouais, ben je vais d'abord réagir sur ça, je suis assez d'accord. Del Toro serait celui ou un des deux qui serait le plus à même de suivre Pogacar un certain temps, pas toute la course, selon moi. Et ce serait vraiment du pur cinéma si Del Toro décidait de faire sa course ou que UAE décidait d'envoyer Del Toro vers l'avant et de laisser Pogacar à l'arrière. Mais ça n'arrivera pas parce que généralement, alors il y a un contre-exemple au Canada l'année dernière, mais généralement quand Pogacar est là, il n'y a pas de tactique UAE. Quand Pogacar est là, Pogacar gagne. Et ils font n'importe quoi techniquement. Hein, en termes de tactique, ils font n'importe quoi. Mais ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Pogacar est trop fort. Donc voilà, je ne crois pas une seule seconde à ce que Del Toro puisse venir. Enfin voilà, que les plans tactiques puissent nous offrir une course un peu plus intéressante avec la présence de Del Toro. Maintenant, voilà, il y a d'autres coureurs, on va peut-être y revenir. Il y a d'autres coureurs qui sont là, mais il y en a qui ne sont pas là, Van der Poel. Et oui, en effet, j'ai déjà été surpris qu'ils viennent sur le week-end d'ouverture, parce que Van der Poel, c'est un coureur qui est incroyable, qui a un palmarès monstrueux, mais qui a une saison qui dure 15 jours, généralement. Donc, voilà, oui, je trouve qu'il ne prend pas assez de risques. Alors, il a raison, hein, il a un palmarès incroyable, mais en effet, il reste un peu trop dans sa zone. Et encore une fois, je le redis une troisième fois. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu vois, il a gagné 8 monuments, il me semble. Donc rien à dire. Mais voilà, c'est dommage. C'est dommage pour le spectateur.
Est-ce qu'une participation au Stradé peut hypothéquer la suite? En fait, c'est surtout ça la question.
Ouais, non, sans doute pas. Sans doute pas. Sauf si lui vraiment a besoin de s'économiser plus qu'un autre mais bon, on voit que c'est pas forcément le cas quand il enchaîne les cyclocross, donc voilà, je suis pas sûr que ça hypothéquerait en effet.
J'allais dire, ça n'hypothéquera pas plus qu'un omloop, qu'un cyclocross. Enfin, c'est
Ouais.
toutes des courses qui, où il y a ce facteur effectivement du terrain qui peut parfois venir vous faire tomber, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas là? Non, je pense que voilà, il sait qu'il part battu contre
Ouais.
Pogacar et donc il n'y va pas. Moi, de nouveau, je suis tout à fait d'accord avec Alexis. Mathieu Van der Poel a un palmarès hors du commun. Ça sera un des grands bonshommes de cette génération. Mais ça manque de panache. Voilà, moi je le dis, je me ferai incendier peut-être, mais je trouve que
Non.
Mathieu Van der Poel manque de panache. Je ne dis pas qu'il manque de panache quand il démarre à 50 km de l'arrivée sur Roubaix. Il manque de panache dans la mesure où il ne sort pas de sa zone de confort, comme tu l'as si bien dit, Damien. Il ne se met jamais en difficulté, ou en tous les cas, il ne prend jamais vraiment de risque. C'est l'impression que ça donne. Et donc par rapport à ça, c'est décevant. On aimerait le voir faire autre chose. Alors on l'a parfois vu, oui, faire. Une petite semaine sur un Tour de France pour aller chercher 2 victoires et un maillot jaune. Mais c'est très, 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 très maigre. On l'a déjà dit souvent sur ce petit plateau, on aimerait voir un Mathieu Van der Poel faire une fois un grand tour comme Wout Van Aert le fait. Ça n'a jamais été le cas. Alors bien sûr, il y a aussi des éléments en interne qui font que, ben oui, mais il y a Philipsen qui... Oui, mais enfin, si tu es Mathieu Van der Poel avec ce palmarès-là, tu peux maintenant réclamer d'avoir une fois un Tour de France, un Tour d'Italie, que sais-je, où tu te dis, là, je viens jouer le maillot cyclamino, le maillot vert. Et je viens me faire plaisir et faire plaisir. Et c'est jamais le cas. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, pour ne pas dire décevant.
Oui, bien sûr qu'il pourrait le faire. Il n'y a que Philipsen. En plus, il n'y a personne pour le général dans cette équipe. Évidemment qu'il y a toute la place pour que Van der Poel fasse un grand tour comme ça. Moi, ça me fait penser, je me suis toujours fait incendier. Et à mon avis, il n'y aurait jamais brillé. J'adorais Tom Boonen, vous le savez. Mais j'ai souvent regretté que Tom Boonen n'essaye pas de pousser une fois jusqu'à l'Amstel pour voir ce que ça pouvait donner à l'époque où il y avait Sagan qui s'y préparait bien. Alors oui, c'était peut-être un peu dur pour Boonen, mais je me dis, tiens, t'as gagné sur les pavés, t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné. Sors un peu de là, quitte à faire un entraînement un peu plus spécifique, essayer de te transformer un tout petit peu. Je te demande pas d'aller gagner Liège, Bastogne-Liège, hein. Je parle de l'Amstel. Bref, voilà, oui, on peut. Moi, je suis un peu déçu aussi que Van der Poel ne vienne pas sur l'estrade, même s'il aurait certainement été battu par Pogacar, par Del Toro ou par un autre que Alexis m'a gentiment laissé. Il n'a pas spoilé le truc. Parce que moi, ma question, c'est, tu parles de Del Toro comme deuxième homme 1 et 2. Peut-être que je m'enflamme, peut-être que c'est trop tôt, peut-être que je deviens français. Mais est-ce que l'homme qui peut sauver la planète cycliste ne s'appelle pas Paul Sexas? Les gars, Paul Sexas, moi j'ai fini de rester mesuré avec lui. C'est bon, je vous ai dit, je peux le dire ici, hein, tant pis pour les gens qui nous écoutent et qui me prennent pour un fou, je vous ai dit, ce gamin, pour moi, à l'heure actuelle, est déjà fantastique. Et je vous ai dit ça en disant, pourtant il a perdu au final contre Ayuso en début de saison. Mais j'ai jamais vu Ayuso faire ce que Paul
Oui.
Sexas fait du raid solitaire. Est-ce que vous avez vu la montée où il demande rien à personne, il les dégomme tous à haut de sa roue? C'est phénoménal et il est censé ne pouvoir aller que crescendo, sauf s'il est prêt trop tôt dans sa saison. Mais de toute façon, trop tôt dans la saison, là on parle de ici le week-end. Moi, pour moi, Paul Sexas, alors oui, c'est l'Estrade, c'est encore un autre niveau. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont venir me dire ça, mais pour moi, Paul Sexas est clairement le favori à la deuxième place. Bon, faut pas déconner non plus, il va pas suivre Pogacar, hein. Clairement le favori à la deuxième place ici samedi. Qu'est-ce que vous pensez du français?
Je le mettrais pas encore au-dessus d'un Del Toro, à coup sûr, mais Del Toro est dans l'équipe de Pogacar. Par contre, en effet, quand je te parlais de deux gars qui pouvaient suivre un temps Pogacar, c'est que ça, c'était le deuxième. Et non, c'est pas Wout Van Aert, malheureusement. parce que, oui, enfin, bon, bref, on va pas parler de Wout maintenant. C'est que ça, je pense, est très fort. Il a déjà eu son stage, il pousse des watts incroyable, il a fait mieux que ou quasiment aussi bien que Contador à Verbier, qui est la référence sur les efforts de moins de 10 minutes, enfin entre 5 et 10 minutes de ces 15 dernières années. Maintenant, sur la longueur de la course, sur l'enchaînement des attaques, je vois quand même Pogacar réussir à le faire plier relativement facilement. Et aussi, quand on voit, comme je l'ai déjà dit, on sait que tout évolue, la nutrition, l'entraînement, etc. Si on voit qu'il y a 3-4 blocs qui ont encore réussi à évoluer entre 2025 et 2026, on peut craindre, ce ne sera peut-être pas le cas, mais on peut craindre que UAE et Pogacar ont eu la même évolution, on verra. Donc voilà, je ne le vois pas suivre Pogacar, mais en effet, candidat au podium, ça c'est clair et net. Est-ce qu'il faut s'enflammer? Je commence à croire que oui. Clairement, est-ce qu'il faut maintenant tout faire pour trouver des raisons d'adorer Sexas au vu des années prochaines? Clairement. Mais on va quand même nuancer avec le fait que lui a eu son stage, Jürgen Senpa. Donc voilà, à voir, mais clairement, candidat au Fantastique dès cette année, oui.
Je sens que Romain va temporiser un petit peu quand même.
Oui, c'est clairement un des futurs tout grands du peloton, c'est certain. Est-ce que c'est déjà un des tout grands du peloton? Ben, oui, quand tu fais troisième de championnat d'Europe, tu es parmi les plus grands. Après, moi, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu sur la réserve dans la mesure où il a quand même fait un hiver de fou. C'est-à-dire qu'au-delà de son stage, il est resté, il l'a dit, hein, on a vu des interviews dans tous les médias français, 2 mois sans voir ses parents, sans voir sa copine, sans voir Chic et Chac. Il a fait des sorties de 6-7 heures dans la neige. Enfin, le mec, il va arriver cramé fin du printemps si ça continue. Il n'a jamais 19 ans. Il a encore de la bouteille à devoir prendre. Donc, c'est un super coureur. Moi, ce que j'espère, et c'est ce qu'on disait déjà en fin de saison dernière sur les petits plateaux, c'est que son équipe ne va pas le cramer, tout simplement. Et quand je vois qu'ils veulent le mettre sous le Tour de France, qu'ils veulent le mettre sous le championnat du monde, qu'ils veulent le mettre. Bon, déjà, c'est pas eux qui vont décider qui va au championnat du monde, c'est le sélectionneur. Mais enfin, voilà, ça montre qu'effectivement, il y a une volonté d'apporter le projet Sexas, qui était, je rappelle au départ, Tour 2030, d'apporter le projet Sexas. Là, maintenant, tout de suite, il faut qu'on y arrive. Je vois passer sur des réseaux sociaux des messages qui me disent: ouais, mais les gars, vous vous rendez compte que s'il gagne le Tour de France cette année-ci, il sera le plus jeune vainqueur du Tour de France de l'histoire. Oui, mais bon, il va pas y gagner le Tour de France cette année-ci, hein. Ça, c'est pas
Ben, il faudra
possible.
beaucoup de bouteilles de verre et que ce soit pas que Wout qui roule dessus, quoi. Ouais.
Voilà, et clairement, c'est un super coureur et c'est probablement le prochain Français à gagner le Tour de France, ça c'est une évidence. Mais est-ce qu'il faut en faire le fantastique à la Pogacar, à la Van der Poel, voire dans une moindre mesure à la Remco Evenepoel? Maintenant, pour moi c'est trop tôt. Pour moi
Non,
c'est
mais
trop
on
tôt.
verra, c'est un candidat sérieux.
Voilà, c'est
Non.
quelqu'un qui effectivement peut faire, en tout cas, je trouve que si moi j'étais chez Decathlon, c'est ce que j'essaierais de faire, c'est de lui faire faire quelques coups à gauche, à droite, pour qu'il prenne la bouteille, comme ce qu'il a fait ici, effectivement, sur, je sais plus si c'était l'Ardèche ou la Drôme. Il va aller faire peut-être un Paris-Nice, ben voilà, qu'il le fasse à fond, et puis qu'il s'économise un petit peu, qu'il fasse peut-être un, je sais pas moi, un tour des Pays Basques à fond. Enfin voilà, qu'il prenne le temps. Par contre, je parlais des réseaux sociaux, là où je rejoins beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, c'est mettez-le sur la Vuelta. Mettez-le sur la Vuelta, où là, il a une réelle chance d'aller figurer sur un podium à 19 ans. Dans la mesure où, a priori, ni Pogacar, ni Vingegaard n'y seront. Et donc là, ça laisse vraiment une possibilité de lui se tester sans qu'il y ait vraiment les mecs qui vont le dégoûter. Mais de nouveau, la Vuelta, c'est fin de saison. Ils ont intérêt à ce moment-là à bien gérer la saison et pas ne pas le faire courir toute la saison comme ils sont en train de le faire courir maintenant, avec des stages, avec des ceci, des cela. Ils vont le cramer. Le mec n'a que 19 ans, quoi.
Mais en fait, tu vois, quand je parle de fantastique, et j'utilise peut-être pas le terme à bon escient, il fut une époque où j'avais envie de mettre Pedersen en fantastique. En fait, c'est bête, hein, mais il y a aussi l'attitude qui me fait le mettre en fantastique, l'attitude en course, quoi, tu vois. Ça joue beaucoup. Après, évidemment, que ce n'est ni Pogacar. Et tu vois, ni Vingegaard, oui et non. Justement, ça dépend ce qu'on entend par fantastique. Sûrement qu'il ne va pas faire le poids sur un Tour de France face à Vingegaard, hein. Mais par contre, sur les courses d'un jour, il est là, il fait le show, il gagne des courses, ce que Vingegaard ne fait pas. Donc, ça dépend en quoi on entend fantastique, en fait. C'est sûr que sur le terrain de Vingegaard, je n'exclus pas que Sextas arrive, je ne sais pas ce que, rapidement, mais rapidement ne veut rien dire. Donc, rapidement à rivaliser avec Vingegaard, mais pas cette année. Ça, j'y crois pas une seconde. Maintenant, Vingegaard semble, lui, six pas sur le déclin, stagner, pardon. Et c'est que ça semble avoir un potentiel de fou, donc ça peut aller relativement vite. Maintenant, je t'avoue, on aura cette discussion s'il est sur le Tour de France avant le tour, de voir quoi. J'ai vraiment du mal à le situer, et c'est déjà phénoménal d'avoir du mal à le situer. Tu sais que je sais pas, et, bon, au début de saison, je t'aurais jamais dit ça, hein, et ça, c'est la culture de l'instant, et c'est aussi la défaillance de Remco qui peut s'expliquer par plein de trucs, et que Remco va peut-être me donner totalement tort en juillet en étant incroyable. Je sais même pas si je dois le mettre derrière Remco sur certains types de courses, tu vois. C'est complètement fou de se poser la question, en fait. La question, elle ne devrait même pas se poser. Ça devrait être, bon, non, de toute façon, sur tout début de saison, d'un autre côté, j'allais te dire, Remco, je le vois capable de battre maintenant Vingegaard sur un grand tour, et ça va être le deuxième homme partout. Donc, tu vois, et en quelques semaines, maintenant, je viens me dire, mais c'est que ça, où est-ce qu'on doit le mettre, quoi, ce gars? Je ne sais pas où il faut le mettre, en
Ouais,
fait. Aucune
parce qu'on
idée.
n'a pas encore assez de réponses, mais très vite on aura plus d'éléments. Déjà samedi, ça va être intéressant, mais dès les premières courses par étapes post-stage de tout le monde, je pense qu'on aura un plus bel aperçu de ce que peut vraiment faire Sexas dès cette année, éventuellement sur un Tour de France. Mais
Je
là, je pense que c'est pas tort.
pense qu'il peut franchement rivaliser avec un Vingegaard sur un Paris-Nice, par exemple, à ce stade-ci. Parce que c'est une semaine de course, c'est assez intense finalement. Et ce sont des courses où il y a de la haute montagne, mais ça reste encore raisonnable. Quand on regarde les parcours des trois grands tours par rapport au parcours de Paris-Nice, du Critérium du Dauphiné, etc., la haute montagne, elle vient 5 fois plus. Et il y a une question de récupération. Et c'est en ça que je viens. C'est-à-dire que sur 3 semaines, je ne le vois pas rivaliser pour l'instant avec un Vingegaard ou un Pogacar. Par contre, sur une semaine de course, avec deux étapes de montagne, un chrono, puis des étapes un peu accidentées, là, franchement, il y a match. Là, il y a match. Et effectivement, il nous montre que dans la forme qu'il a montrée en tous les cas ici sur l'Ardèche ou sur la Drôme, il est capable effectivement de rivaliser dès maintenant. Mais voilà, par contre, effectivement, dans les années qui viennent, on va clairement assister à deux courbes d'évolution, une de Vingegaard qui va descendre et celle de Sexas qui va monter. Et Sexas va dépasser, je pense, assez rapidement Vingegaard. Mais dès cette année-ci, j'y crois pas trop.
Et pour en revenir au Stradé, du coup, ton avis sur l'Estradé, par contre, en dehors du fait qu'on s'enflamme, etc., ici, c'est que ça sur l'Estradé.
La course est dure. C'est un coureur qui aime manifestement les courses dures. Je connais pas bien son pédigré sur les chemins blancs, etc. Là, j'ai un petit doute. J'avoue que je me suis pas trop informé à ce niveau-là. Ça reste une course qui va se jouer dans l'intensivité normalement, hein. C'est comme un Paris-Roubaix. C'est une course où il n'y a jamais de temps mort. Et donc c'est là où il faudra voir si lui est capable d'enchaîner déjà maintenant des courses comme ça sans temps mort, aussi difficiles, aussi longues. Mais clairement, c'est un coureur qu'on doit voir dans le top 10 à l'arrivée. En tout cas, entre ce qu'il a montré, ce qu'on fait de lui et la façon dont l'équipe le met devant, il doit faire dans le top 10. S'il n'y est pas, ce serait une exception.
En fait, l'Estrade, je me rends compte, les courses sont tellement jouées à l'avance qu'on a évoqué, je crois, tout et pour tout, quatre noms, ou cinq, parce que tu as quand même mentionné Pidcock. D'autres choses que vous voudriez dire sur l'Estrade? Moi, je ne sais même pas si le départ d'Estrade, mais je vais rattraper quand même un truc. Quand on a parlé du week-end d'ouverture, je m'étais promis que j'en parlerais. Je ne sais pas si ça me fait plaisir ou ça ne me fait pas plaisir, mais on a quand même vu Mohoric revenir à un niveau intéressant. Voilà, fin de la parenthèse. Je pense à lui parce que l'Estrade, c'est aussi un parcours trop dur pour lui, mais un coureur un peu passe-partout qu'on peut toujours voir à l'avant, quoi.
Non, mais en soi, il y a plein de coureurs intéressants pour en citer deux, trois comme ça à la volée. Il y a Van Edvelt, évidemment, Romain Grégoire, Adria, Carapaz, Illy, Mohoric et j'en passe, Jorgensen, Van Aert. Mais voilà, il faudra qu'on fasse comme toi, Damien, c'est-à-dire qu'on se concentre sur le deuxième volet de course et que la réalisation nous le permette aussi. Ça fait
Ça,
des
c'est
années
toujours
qu'on
le
le
problème.
dit, et là, il est vraiment temps parce que à l'heure actuelle, en effet, la bagarre pour le podium et pour la cinquième place sera, en tout cas sur cette stratégie, probablement plus intéressante à partir d'un certain moment de la course que la bataille pour la première place.
D'autant plus que l'estrade renforce encore le problème en n'étant pas diffusé en intégrale. Et en fait, tu arrives sur
Ouais.
la course, les mecs sont déjà devant, quoi. Ouais. OK. Et avant de vous laisser, si vous pouvez en rajouter, je vais quand même te poser la question. Alexis, enfin Romain, tu pourras répondre, mais tu as un espoir secret en toi pour Van Aert quand même sur cette course, pas spécialement gagné, mais tu en espères, je ne sais pas, simplement qu'il se mette en évidence, en dehors d'un résultat brut, tu espères quelque chose ou c'est trop tôt et c'est pour prendre du rythme et on verra plus tard dans la campagne.
Non, j'espère quand même voir un bon Van Aert. Mais
Ok.
bon, voilà, il a eu beaucoup de soucis. Et ça dépend aussi quand est-ce que les attaques ont lieu. Si c'est sur des efforts très longs, ça va être compliqué. Maintenant, bah, quoi que, hein, peut-être qu'il a plus justement à ce moment-ci de la saison, il a peut-être plus l'endurance que l'explosivité. Donc c'est dur à dire. Je pense qu'il sera trop court, mais je serais déjà content de le voir se battre pour un top 10, voire un top 5.
Je rappelle qu'il a gagné à Sienne l'année passée, quand
Ouais,
même.
tout à fait. Tout à fait.
Ouais, un petit top 10, ce serait quand même sympa.
Ouais.
Bah, ce serait
Et
bien, oui,
le voir, quoi,
pour.
le voir s'illustrer, ça vraiment, j'aimerais bien qu'il prenne du plaisir et qu'il nous en donne.
Parce que s'il y a bien un
J'allais
coureur
te
qui
le
fait la
dire.
course.
Ouais, eh ben, figure-toi, j'allais te le dire, qui nous en donne, ce que j'allais dire, ce serait bien pour sa confiance, et j'allais
Ouais.
enchaîner, ce serait bien pour notre confiance aussi, que nous, on
À
ait un peu
fond.
confiance en quelque chose d'autre, en fait.
À
Hein.
fond.
Ouais. Mais ok, je pense qu'on a fait un beau petit épisode là. Je vous propose de rester là pour cette fois-ci. Ben, on se retrouvera assez rapidement en espérant pouvoir être disponible pour peut-être débriefer tout ça, pour au moins présenter à Primavera qui chaque année sympa ces derniers temps. Donc on essayera d'être là pour parler de tout ça. Et d'ici là, ben, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes courses et à bientôt sur le petit plateau. Salut les gars!
Salut, bonne course.
Ciao, ciao!